Histoire Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Villon, bonjour à tous. Il est 11h en temps universel, réchauffement climatique. L'année 2019, avec son lot de feux de forêt, de sécheresse et de canicule, sera l'une des trois années les plus chaudes enregistrées depuis 1850 et conclut donc une décennie de chaleur exceptionnelle, a annoncé aujourd'hui l'ONU à l'occasion de la COP25 à Madrid. Entre janvier et octobre, la température moyenne mondiale a été plus élevée d'environ 1,1 degré Celsius par rapport à la période de 1850-1900, indique l'Organisation météorologique mondiale, ce qui ferait de 2019 la deuxième ou troisième année la plus chaude après 2016, marquée par le phénomène El Niño. Cela dit, la 25e conférence de l'ONU sur le climat s'ouvre aujourd'hui à Madrid, en Espagne. Les États-Unis ont confirmé leur retrait de l'accord de Paris l'an prochain, mais la présence de la démocrate Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants, semble des plus remarquée. Les pays du Sud ont réclamé au Nord de prendre leurs responsabilités et de les aider par tous les moyens possibles pour faire face aux désastres qui s'annoncent. Pour en parler, Eric Manirakiza a joint l'activiste et ex-ministre sénégalais de l'Environnement, Ali Haïdar.
Donc avec un regard venant de l'Afrique sur ces questions, pour nous, vraiment, on est plus inquiet qu'autre chose, notamment pour l'Afrique, qui n'est pas responsable de ces questions de dérèglement climatique, mais qui subit grandement les conséquences de ce dérèglement climatique. Alors que on sait très bien qu'on va au mur, on sait très bien que la biodiversité est en train de disparaître, que la ressource est en train de disparaître, on voit bien les terres s'acidifier, le sel gagner du terrain, on voit bien le rendement agricole à moins d'être boosté par des produits chimiques hautement dangereux pour le climat et pour la planète et pour la santé publique. Et les rendements agricoles sont faibles à cause de, justement, de tout ce mécanisme qui fait que la terre est en train de mourir. Alors, 8%, 10%, l'Afrique 2%, c'est encore les mêmes qui vont décider des mêmes choses et qui vont ramener tout à eux. Vraiment, ça ne nous concerne pas, nous, en Afrique.
Mais que peut faire l'Afrique subsaharienne pour justement prévenir l'environnement?
Vous savez, monsieur, il y a énormément, beaucoup plus d'argent qui quitte l'Afrique pour aller en Europe que d'argent qui quitte l'Europe pour venir en Afrique. Seulement, quand l'argent quitte l'Afrique, on appelle ça business. Quand l'argent vient vers l'Afrique de l'Europe, on appelle ça aide. Je peux donner l'exemple d'une grande entreprise française, que je ne citerai pas parce que je suis fatigué d'aller au tribunal, je n'ai pas les moyens. D'une grande entreprise française dans un pays africain, le Congo-Brazzaville, cette entreprise gagne plus d'argent dans ce seul pays que toute l'aide de la France pour toute l'Afrique. Quand l'argent part, c'est business. Quand l'argent vient, c'est aide. Alors, qui aide qui? L'Afrique est riche. L'Afrique est riche de tous ses trésors. L'Afrique est riche de tous ses peuples. L'Afrique est un continent riche, hélas, qui est pillé par les mêmes multinationales qui nous racontent les salades quand ils se retrouvent dans les grandes conférences à raconter les mêmes histoires qu'on va changer le monde, alors qu'en fait, ils ne veulent que profiter encore plus du monde. Alors, quand je vois ces gens dans leur petit four à raconter leurs histoires, dormir debout pour changer la planète, alors qu'au quotidien, c'est eux qui la détruisent, vraiment là, ça ne me concerne pas. Il ne faut pas me mêler à ça. Je ne peux pas me mêler à ça.
Voudriez-vous dire qu'il ne faut plus...
Il faut arrêter de piller la planète. On ne peut pas se développer infiniment dans un milieu qui, lui, a des limites. On ne peut pas parler de croissance infiniment dans un environnement qui, lui, a des limites. On ne peut pas permettre cela. Maintenant, hélas, c'est eux qui ont les pouvoirs, et politiques, et militaires, et financiers. Donc, ils font ce qu'ils veulent. Mais quand ça va se casser la gueule, heureusement pour nous, que ça va se casser la gueule pour eux aussi.
Ali Haïdar, activiste et ex-ministre sénégalais de l'Environnement. L'Organisation mondiale de la santé a mis en garde aujourd'hui contre un recul dans les efforts mondiaux pour éradiquer la rougeole, alors que le bilan de l'épidémie qui a débuté mi-octobre au Samoa atteint désormais 55 morts. Au total, 50 des personnes décédées dans l'archipel du Pacifique Sud sont des enfants âgés de moins de 4 ans, ont précisé aujourd'hui des responsables samoans. 18 autres sont hospitalisés dans un état critique et la crise ne semble pas refluer. 153 nouveaux cas ont été enregistrés ces 24 dernières heures, portant le nombre de cas à 3881 pour une population totale de 200 000 habitants. L'affaire ukrainienne ici aux États-Unis, le président Donald Trump s'en est pris lundi aux démocrates pour avoir prévu une audition dans l'enquête en destitution qui le vise à Washington, tandis qu'il se trouve lui-même au Royaume-Uni pour un sommet de l'OTAN. Les derniers développements, John Lindon.
C'est une mascarade, une véritable honte, ce qu'ils font à notre pays, a déclaré le président américain en visant les démocrates. Nous nous battons pour les Américains, a-t-il ajouté hier en quittant la Maison-Blanche pour se rendre à Londres. Le président ou ses avocats ont été invités par les démocrates à venir témoigner. La Maison-Blanche a décliné sans fermer totalement la porte. Pendant 2 mois, la commission du renseignement de la Chambre des représentants a mené une enquête avec les auditions d'une quinzaine de témoins. Elle doit procéder ce mardi au vote de son rapport à transmettre à la commission judiciaire qui commence demain l'audition de spécialistes en droit constitutionnel. Cette commission judiciaire devrait déterminer si les faits reprochés à Donald Trump sont des possibles motifs de destitution. Elle pourrait envisager au moins 3 chefs d'accusation, dont abus de pouvoir, corruption et entrave à la justice. Même si le président est officiellement inculpé, son procès aura lieu devant le Sénat, dominé par les Républicains.
Les politiciens en Irak négocient aujourd'hui la formation du prochain gouvernement à Bagdad, alors que les violences se poursuivent dans les 2 villes saintes d'Irak, Karbala et Najaf, en dépit des médiations. Depuis le 1er octobre, l'Irak est en proie à sa pire crise sociale, déjà marquée par plus de 420 morts et près de 20 000 blessés, dont beaucoup resteront handicapés à vie, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources médicales et policières. L'Iran a rejeté aujourd'hui les bilans de la répression du mouvement de contestation fourni, selon Téhéran, par des groupes hostiles, les qualifiant de mensonges absolus. La réaction de l'Iran intervient au lendemain de la publication par Amnesty International d'un nouveau bilan faisant état d'au moins 208 personnes tuées dans la contestation ayant éclaté mi-novembre en Iran. De leur côté, les autorités iraniennes n'ont confirmé la mort que de 5 personnes, 4 membres des forces de l'ordre tués par des émeutiers et un civil, et annoncé environ 500 arrestations, dont celle de 180 mineurs.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Sur le continent, le principal accusé dans une affaire de pot de vin qui a plongé le Mozambique dans une grave crise financière a été acquitté hier à New York. Il avait mis en cause Felipe Nyusi, l'actuel président mozambicain Eric Manirakiza.
Le verdict rendu hier par le jury d'un tribunal fédéral de Brooklyn est un camouflet pour les autorités américaines. Elles avaient choisi de poursuivre des faits commis hors des États-Unis par un accusé qui n'était pas un citoyen américain. Dans ce procès qui a duré 6 semaines, le Libanais Jean Boustany était poursuivi pour association de malfaiteurs en vue de blanchir de l'argent et désavantager des investisseurs américains. Employé par le groupe de construction navale Privinvest, Jean Boustany a reconnu avoir versé des dizaines de millions de dollars à des officiels mozambicains pour l'obtention de 3 contrats d'équipement majeurs. Il a affirmé avoir versé 1 million de dollars à l'actuel président du Mozambique, Felipe Nyusi, sous forme de contribution à sa campagne électorale. Élu président en 2014, puis réélu le mois dernier, M. Nyusi était à l'époque des faits ministre de la Défense. Le Frelimo au pouvoir a toujours démenti ces accusations.
La mission des Nations Unies au Soudan du Sud, la MINUS, a annoncé aujourd'hui avoir envoyé des troupes dans la localité de Mapéa, dans le centre du pays, pour empêcher de nouvelles violences communautaires qui auraient déjà fait 79 morts. 75 casques bleus des Nations Unies ont été temporairement redéployés de Rumbek à Mapéa pour prévenir de nouvelles violences entre communautés dans la région des lacs du Nord, a indiqué la MINUS dans un communiqué. 2 soldats maliens ont été tués lundi et 7 autres blessés par un engin explosif improvisé dans le centre du pays en guerre, non loin de la frontière de Burkina Faso. L'explosion s'est produite en milieu de journée à Diougani, dans la région de Mopti, a indiqué l'armée malienne sans donner davantage de précision. Et puis Aminatou Aïda, championne de la résistance pacifique à l'annexion par le Maroc du Sahara occidental, réclame une action internationale urgente pour empêcher le conflit. Il attend de déboucher sur une guerre. Cette militante sahraoui de 52 ans, qui recevra demain mercredi l'un des prix les plus prestigieux dans le domaine des droits de l'homme, avoue craindre que la jeunesse dans cette région ait perdu l'espoir. Jean-Roger Bion.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.